Voilà, c'est bon.
C'était pas sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis encore d'être avec vous. Ça fait quelques semaines depuis la dernière fois. Et c'est vrai que j'imagine que vous soupirez un petit peu auprès de ton pasteur qui se balade aux États-Unis. C'est vrai que j'ai eu un message récemment de sa part. Il paraît que ça se passe bien. Mais vous lui manquez. Vous lui manquez. Voilà, c'est ça. Encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Genas et bien dans le bulletin que vous voyez ça. Je suis impliqué dans une église, mais anglophone ici à Lyon, à l'église internationale de Lyon, communauté chrétienne internationale de Lyon. Et, mais c'est vrai que notre ministère en France, au niveau quant au ministère anglais, c'est à peu près récent. C'est assez récent. Donc je me réjouis de pouvoir exercer un ministère aussi auprès de vous en français. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'anglais pendant le message, sauf si vous voulez. Hein. Vous savez, on entend les bébés qui crient un petit peu, qui font un bruit plaisant quand même. Et pour tous ces bébés, tous les mamans qui ont accouché, bien avant l'accouchement, il fallait qu'ils passent par une chose incontournable, ce qui est une échographie. Une chose merveilleuse, on peut voir le bébé dans le sein du maternel et voir les détails. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais la Bible aussi parle d'échographie. Vous avez su ça? Que la Bible parle d'échographie. C'est une échographie un peu à l'ancienne. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Il s'agit en particulier d'un message reçu du Seigneur par Rebecca dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Aujourd'hui, nous allons porter notre regard sur Jacob dans le premier des deux messages sur lui, donc aujourd'hui, et dans deux semaines, nous allons encore porter le regard sur Jacob. Cet arrêt sur la vie de Jacob s'inscrit dans une série que j'ai faite il y a l'année dernière sur la promesse que Dieu a faite dans le jardin qui concernait la descendance promise, la semence promise qui allait aboutir dans l'apparition de Jésus comme sauveur. Après, vous vous souvenez, après la chute de l'humanité, Dieu a promis une descendance, une semence, autrement dit, qui écrasera le serpent. Le serpent, celui qui a provoqué le choix de désobéir à Dieu dans le jardin. Et cette promesse que Dieu a donné, est à l'origine de l'espérance décrite depuis la vie des patriarches qui aboutira dans l'évangile de Jésus-Christ. Mais avant d'en parler plus amplement, revenons-nous à cette fameuse échographie. Dieu a parlé à Rebecca pour qu'elle comprenne ce qui se passait dans son ventre, dans la semence promise. Donc, avant de continuer, nous allons prier et puis nous allons lire dans la Genèse, chapitre 25, pour commencer. Prions un instant ensemble. Il te faut pas une échographie, Seigneur, pour savoir de quoi il s'agit dans les lieux secrets. Tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Et Seigneur, tu connais nos cœurs et ce dont nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Merci de nous parler par ton esprit, selon la parole de ce message, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être encouragés et voir de manière plus précise ton œuvre et la façon dont cette œuvre nous transforme. Nous te prions au nom du Sauveur promise par cette semence, Jésus-Christ. Amen. Donc cet aperçu, nous allons voir dans le chapitre 25 de Genèse et à partir du verset 21. Genèse chapitre 25, verset 21. Ah, voilà pourquoi je ne suis pas dans le bon livre. Voilà pourquoi ça n'avait pas de sens. Je Je crois que ses enfants veulent entendre mon message. Ok. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Voici l'échographie. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Voyez l'échographie, vous voyez le dessin que Dieu a déjà vu et donné à ces deux garçons qui allaient se traduire en peuple entier. Cet aperçu de ce qui se passe dans le sein maternel annonce une lutte entre deux peuples avec deux destinées distinctes. La bénédiction de Dieu est réservée pour un de ces deux peuples, mais la façon dont elle va se manifester annonce déjà des difficultés. La première difficulté est celle d'un vol. Lisons le drame au chapitre 27. Donc, chapitre 27, et nous allons lire un extrait assez long. Merci de votre indulgence quant à cette lecture, mais il vaut mieux tout lire pour mettre tout en contexte, afin d'en tirer les leçons, les choses pour nous aujourd'hui. Chapitre 27, à partir du verset 1er. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce que Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, est-ce Rebecca ou Rebecca? Qu'est-ce que vous dites? C'est Rebecca, voilà, c'est bien ça. Quant à Rebecca, verset 6, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et présente-moi un plat que je mangerai, je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre deux bons chevreaux dans le troupeau, j'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporte à sa mère qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu ? » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela ? Tu en es vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approche et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. » Maudit soient tous ceux qui te maudiront, et béni soient tous ceux qui te béniront. Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac, lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu ? » Il a répondu, « Je suis ton fils, aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai bien béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris la bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce que parce que l'on a appelé Jacob qui m'a supplanté deux fois, il a pris mon droit d'aînesse, et moi, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. » Et puis au verset 41, on lit ces versets. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. » La bénédiction a été volée. Quelle histoire! Ces frères qui ne s'entendaient pas et cette bénédiction qui est au centre de l'agissement des parents. C'est là tout cru et c'est quelque chose de voir ça. Dans le monde actuel, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est cambriolé? Qu'est-ce qui se passe? On fait appel à la police et normalement, on mène une enquête afin de pouvoir trouver les coupables pour les traduire en justice. Le contexte qui mène au drame qu'on vient de lire est décrit un peu plus tôt, dans le chapitre 25, il s'agit juste de quelques versets, et je vais lire ces versets parce que ça va donner un éclaircissement sur la raison pour laquelle peut-être il a eu ce drame qu'on vient de lire. Chapitre 25, au verset 27. Il s'agissait des deux garçons qui sont nés, et puis qui commencent à grandir. Donc 27, du chapitre 25, « Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Déjà, on voit que les mauvaises choses s'annoncent, puisqu'il y a un favoritisme de part et d'autre. Un favoritisme de part et d'autre. Deux parents se liant chacun à un de ses enfants au détriment de l'autre. L'éclat de la bombe est juste une simple question de temps quand ceci est la donne. Et pourtant, Dieu a mis les choses au clair pour tout le monde avec cette échographie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le plus grand sera asservi au plus petit. Pourquoi la discorde? Pourquoi la discorde? Elle est due à un choix délibéré. Isaac préfère Ésaü parce qu'il aimait les biens donnés en nature, à savoir le gibier. Rebecca, quant à elle, avait une préférence pour Jacob. Il était plutôt sédentaire et donc proche de sa mère et peut-être plus affectif vis-à-vis d'elle. Surtout qu'il semble qu'il y avait quand même une froideur entre peut-être les parents. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les deux parents n'avaient pas l'intention de céder leur préférence. D'où la cause du vol décrit qu'on vient de lire et qui se passe par la suite. Ce serait important de noter qu'Isaac allait donner la bénédiction à Ésaü en cachette. Et ça, c'est quand même pas anodin. Normalement, la coutume de l'époque exigeait une cérémonie publique avec des témoins. Mais Isaac semblait vouloir influencer la donne en faveur de son fils préféré. Rebecca en prit conscience et intervint pour corriger le tir. Le grand absent quant au comportement des deux, c'est Dieu. Ni l'un ni l'autre ne compte pas de Dieu, de lui, afin que sa parole, clairement donnée, se réalise. Chacun compte faire réaliser son projet de sa manière. En fin de compte, la bénédiction qui était censée être une chose donnée dans de joyeuses conditions est carrément volée dans l'obscurité. La réalisation a lieu, mais c'est par du forcing et de la tromperie. Voici la donne. Il y a plusieurs angles par lesquels tirer des applications de ce récit de nos jours. J'ai choisi d'en souligner seulement quelques-unes. D'abord, remarquez ceci. L'inspiration des actions des deux côtés. Isaac est plus concerné par son ventre encore, alors que Rebecca est plus concernée par l'avenir de son fils préféré. Tous deux s'en fichent du prix de leur choix. Pour des biens en nature, Isaac est prêt à bafouer la parole claire de Dieu quant au choix de Dieu vis-à-vis de Jacob. Rebecca est prête à user, quant à elle, la tromperie et même à être maudite afin d'assurer la bénédiction pour son fils chouchou. Du coup, les traits de caractère s'expliquent chez les enfants. Ésaü ressemble à son père lorsqu'il vend son droit d'aînesse pour un potage, pour son estomac. Jacob ressemble à sa mère qui se sert de ruse pour s'assurer son projet sans compter le prix. Ce qu'il va faire, et vous allez voir. Tels les parents, tels les enfants. Voici un rappel flagrant que nos traits se transmettent à nos enfants, quand le voyons-nous. Voici un rappel flagrant, méfions-nous plutôt. Remarquez aussi leur manque de foi. Chacun décide d'intervenir selon leurs propres moyens et raisonnements. Enfin, remarquez que leur action pour maîtriser la donne les rend d'autant plus incapables de la contrôler. Ça échappe complètement à leur contrôle. La famille s'éclate dans le mauvais sens du terme. Les problèmes dans la famille sont souvent liés au même type de choix que nous voyons dans le texte. Favoritisme, égoïsme et préférence créent des tensions, d'abord. Les choix intéressés faits à l'insu des autres membres nient la confiance et creusent un gouffre de plus en plus profond. Le dégât peut être considérable jusqu'à mener à la séparation, ce qui se passe dans l'histoire. Voici la donne lorsqu'on insiste sur ses choix et ses moyens au lieu d'insister sur ceux de Dieu. Nous voilà devant une réalité rude quant à la promesse et la semence qui fait l'objet de notre réflexion, cette descendance promise dans le premier jardin. Voici Isaac et sa progéniture bénéficiaires de la promesse et ses bénédictions, mais incapables de mener à bien l'affaire. L'humanité choisie par Dieu est porteuse même de la semence promise et coupable de tromperie pour s'assurer de ses propres projets en s'en fichant des projets que Dieu a déjà formés. Ceci nous donne un aperçu du pari que Dieu a fait dans le jardin. Un pari fait en dépit de nos fautes. Cela est une bonne nouvelle face à la tromperie humaine, car Dieu sait faire grâce. Dieu reste souverain en dépit du choix de voler sa bénédiction. En fait, il reste maître du choix de la donner, en fin de compte. Nous allons lire le chapitre 28, au chapitre 28 de la Genèse, qui est un récit assez connu, voire même très connu. Il s'agit de l'échelle qu'a vu Jacob. Chapitre 28, à partir du verset 10. La bénédiction a été volée. Ces versets nous parlent de la bénédiction qui est donnée. Et c'est Dieu le maître de ce don. Verset 10, chapitre 28, la Genèse. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Il allait appeler cet endroit-là Bethel, qui veut dire en hébreu maison de Dieu. La bénédiction volée est de nouveau donnée. J'imagine que vous, en tant que bien français, en lu des livres de Victor Hugo, non? Peut-être que oui, peut-être que non. Les Misérables, ça cartonne au niveau de théâtre aux États-Unis, et puis même en France, même en Europe. Mais vous vous souvenez de cette histoire de Victor Hugo, Les Misérables. Il y a une scène émouvante lorsque Jean Valjean, le protagoniste, est pris en flagrant délit quant au vol des objets en or appartenant à l'évêque. Vous vous souvenez de cette histoire-là? L'évêque, conscient du sort de l'homme coupable, parce qu'il y a l'officier, le policier qui le trouve et puis qui le, oui, qui le trouve en flagrant délit. Lorsque l'évêque, qui est conscient du sort de l'homme, lorsque il comprend les enjeux, s'il dénonce en fait cet homme, il décide de lui faire grâce en faisant semblant de lui donner ses objets en or. Et Jean Valjean part sans rien avoir. Donc il n'est pas arrêté. Il part avec ses objets précieux. Et c'est à cause de la grâce de cet évêque. Valjean, tout bouleversé quant à cet acte de pure grâce dont qu'il ne méritait pas, devient désormais, de ce moment-là, transformé. Un homme transformé. Un seul acte de compassion, à un moment charnière, change toute la donne de l'histoire de cet homme. Et ce n'est qu'une histoire. L'extrait lu dans le chapitre 28 que nous venons de lire nous renforce le choix de Dieu quant à Jacob. C'est un acte qui change la donne et l'homme. Jacob prenait la fuite pour sauver sa vie parce qu'Ésaü en voulait à lui. Dieu ne semble pas figurer dans ses projets quant à Jacob. Jacob qui est vulnérable, seul et à pied. Il n'a rien sur lequel s'appuyer si ce n'est une pierre comme oreiller. Je ne sais pas si vous avez jamais dormi avec une pierre comme oreiller. C'est pas la chose la plus confortable. Il s'endort et là où il ne peut rien, là où il est complètement passif, il est en train de dormir, c'est là où Dieu lui apparaît en rêve pour prononcer la bénédiction. Le fruit de la bénédiction volée n'est que solitude, regret et fuite. C'était le cas pour Jacob. Mais le fruit de la bénédiction donné par Dieu rassure et complet, et promet, pardon. Le rêve transforme le regard de Jacob sur sa situation lorsqu'il se rend compte que Dieu est à l'œuvre dans ces circonstances même regrettables. Là, il y a des leçons à en tirer pour nous aujourd'hui. La vie ne se passe toujours pas comme on espère. Les choix que nous faisons nous orientent et ce n'est pas rare que nous nous trompons, n'est-ce pas? En plus, les choix des autres sont aussi capables de nous affecter de la mauvaise manière. La physique nous dit que pour chaque action, si vous êtes physicien, il y a une action égale et opposée. On ne peut pas y échapper. Nos actions et celles des autres forment un tout qui influence toute la vie. Lorsque les choix faits sont négatifs, nous pourrions nous trouver écartés de là où nous voulions être. C'est souvent à cet endroit-là où nous devenons plus sensibles de notre impuissance, faiblesse, voire même défaillance. La foi chrétienne n'est pas compréhensible sans une prise de conscience de notre vrai état dû au choix regrettable pris et par nous et par les autres. Dans ce cas, surtout que personne ne choisit jamais parfaitement, comment donc espérer maîtriser quoi que ce soit et parvenir là où on voudrait? Voici le dilemme, de tout être faillible. Nous avons lu que Jacob était vulnérable et seul, et cela à cause de ses choix et ceux des autres. Il n'avait aucun appui, aucune façon de maîtriser. Il était en train de s'enfuir. Et c'est exactement là où la seule personne qui ne se trompe jamais et dont les choix sont toujours parfaits entre au devant de la scène. Dieu lui parle et l'assure de son choix de le bénir selon une promesse déjà faite. Voici le Dieu qui est prêt à bénir toute personne qui se trouve seule et vulnérable à cause de mauvais choix. Son choix, celui de Dieu, est fait malgré le comportement des hommes déchus et selon la promesse faite à une race anéantie par son choix de lui désobéir. Dieu fait grâce alors que l'humanité ne mérite que sa défaveur. La donne de l'histoire et de l'humanité est désormais changée par son choix de faire grâce et bénir. L'échelle dans l'histoire en est la preuve, par excellence. Le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité, est le lien le plus important. L'échelle qui fait le lien n'est pas faite par nous. Je répète, l'échelle qui fait le lien n'est pas faite par nous, afin que nous la montions. Ça, c'est un principe de la religion, tout simple. C'est fait par Dieu, afin qu'il descende. Ça, c'est le christianisme. La bénédiction est descendue. Dernier point. La bénédiction est descendue. L'image de l'échelle dans l'histoire de Jacob est significative car la seule personne biblique à en faire référence, c'est Jésus lui-même, lorsqu'il est en train de commencer son ministère. Nous lisons ceci dans l'évangile de Jean, où il est dit, et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ça vous rappelle quelque chose? Ici, Jésus remplace l'échelle dont il est question dans l'histoire de Jacob, avec lui-même, avec le Fils de l'homme. Jésus est en train de dire qu'il est l'échelle qui lie le ciel avec la terre. Ce lien entre l'échelle que Jacob a vue et Jésus, le Fils de l'homme, est absolument vital pour comprendre l'Évangile. Là où Jacob avait le plus besoin de l'intervention de Dieu, là où il subissait les conséquences de ses mauvais choix, là où il n'y avait aucun appui, c'est là où Dieu lui révèle en songe l'image d'un Dieu qui est prêt à le rencontrer afin que l'accès rompu dans le premier jardin soit restauré. Jacob voyait le fruit ultime de la bénédiction dont il jouissait déjà, à savoir un Dieu qui cherche ceux qui sont perdus. Paul nous donne une description encore plus ample lorsqu'il dit dans son épître aux Romains, « En effet, il dit, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, comme Jacob, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. » Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cette recherche de Dieu qui trouve son aboutissement à la croix s'étendra jusqu'à la bénédiction, comme dit le texte, de toutes les nations de la terre. Vous venez, il y en a dans la salle qui viennent de toutes les nations, au moins une partie. Ça se réalise. La lignée de la descendance est restée intacte malgré la tromperie de l'homme, parce que Dieu donne la bénédiction. La bénédiction de Jacob qui mènera au Sauveur, et nous avons vu le lien entre cette échelle et le Christ lui-même, cette bénédiction est ancrée dans la promesse fidèle de Dieu, déjà donnée dans le jardin et de nos jours que nous reconnaissons dans ces textes-là. Nous avons commencé en parlant de l'image que Dieu a donnée à Rebecca concernant le sort des enfants qui luttaient dans son sein. Cette lutte s'est manifestée en tromperie dans un premier temps, mais elle est loin d'être résolue. Donc il y a partie numéro 2 que nous allons creuser ensemble d'ici 2 semaines. La prochaine fois, nous allons aborder la façon dont Dieu confirme sa bénédiction au milieu des luttes humaines, mais aussi divines. Entre-temps, pour ce qui est cet entre-temps, fortifiez-vous avec cette connaissance-là, la connaissance que Dieu est prêt à vous rencontrer là où vous êtes. Aucun choix, ni tromperie, ne l'empêchera de bénir quiconque croit en lui. Prions. Lorsque nous voyons, Seigneur, le caractère faillible de ces personnes dans le texte, nous nous voyons nous-mêmes. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce parce qu'on fait de mauvais choix beaucoup. Et Seigneur, merci de ce que lorsque tu décides de donner la bénédiction, il n'y a rien qui ne peut l'ôter. Seigneur, pour cette bénédiction qui est la nôtre en Christ, grâce à ta grâce, nous te remercions et nous te louons et nous te demandons, Seigneur, d'accepter notre repentance et notre joie en ta présence. Merci pour cette histoire. Permets, Seigneur, à chacun d'entre nous de pouvoir vivre avec cette réalité de façon à faire répandre cette bénédiction à ceux qui nous entourent, qui vivent seuls, sans espoir et sans sauveur. Au nom de celui qui est le sauveur, selon la promesse faite. Amen. Je vais inviter Jonah à venir pour un partage de la scène.
En fait, on va chanter un chant avant de célébrer la Sainte Cène. Donc, je vous invite à vous lever. On va chanter le numéro 156, Seigneur, attire.